Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Le lundi matin, nous sommes avec les entrepreneurs de The Black Pyramid Entrepreneurs. Nous accueillons aujourd'hui Eva Barra. Elle est la fondatrice de l'ethno-coaching. C'est une discipline qui est axée sur le développement personnel et l'estime de soi. Alors, elle accompagne les personnes qui le désirent à la jonction de plusieurs cultures et méthodes éducatives. Alors, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Africa Radio. Alors, vous accompagnez les personnes qui ont grandi à la jonction de plusieurs cultures et méthodes éducatives. Est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément ce qu'est, selon vous, l'ethno-coaching et en tout cas l'ethno-coaching que vous proposez, Eva Barra, bonjour.
Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. Alors, qu'est-ce que l'ethno-coaching et comment est-ce que j'accompagne ? En fait, c'est avant toute chose l'art d'écouter les cultures qui nous habitent et qui nous entourent. Qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, bien souvent, on vit ici rempli d'ailleurs. On vit ici rempli d'ailleurs parce qu'on est né ailleurs. On vit ici rempli d'ailleurs parce que nos parents viennent d'ailleurs et nous ont transmis toute leur culture, ou en tout cas, ils ont essayé de nous transmettre le maximum. Et mon objectif à moi, c'est d'amener tout un chacun à créer de la paix entre ces cultures qui sont à l'intérieur d'eux, qui viennent parfois s'entrechoquer avec les cultures qui sont à l'extérieur, parce qu'il peut y avoir des contradictions, des choses qui tirent dans les directions opposées. Donc, je crée de la paix entre ces différentes cultures.
Alors, vous avez créé l'ethno-coaching pour répondre à un besoin personnel, Eva Barra.
Totalement, exactement. Avant de créer cet ethno-coaching, j'ai moi-même eu une histoire, j'ai une histoire très singulière à la jonction de plusieurs cultures. Je suis née au Mali, je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans.
Ouais.
Et ayant grandi ici, justement, eh bien, j'ai eu ces parents qui m'ont transmis leur ailleurs autant que possible. Et à la fois à l'extérieur de la maison, à l'extérieur du foyer, eh bien, j'avais une toute autre carte du monde qui m'était présentée par le pays dans lequel je vivais, à savoir la France.
Alors, est-ce que justement le poids des traditions, le poids des religions n'est pas trop lourd à porter pour certaines personnes ?
Eh bien, justement, c'est là où j'interviens pour valider avec eux que ce soit un choix personnel. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est les parents, l'environnement qui va nous transmettre des informations. Ensuite, une fois adulte, eh bien, vient l'heure de se poser la question, est-ce que je valide ce qui était vrai pour mes parents ? Est-ce que je valide ce qu'on m'a transmis enfant ? Est-ce que je valide ce qu'on a pu me dire dans le milieu professionnel ? Qu'est-ce que je fais de toutes ces choses-là ? Et du coup, oui, le poids des traditions rentre en ligne de compte à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais de la tradition de mes parents, s'ils sont exactement du même pays, mais moi je vais jusqu'à l'ethnicité, parce qu'ils peuvent être du même pays et avoir des ethnies différentes.
Ouais.
Et quand ils sont d'ethnies différentes, eh ben, est-ce que je valide ce que me transmet mes parents, mon père par son ethnicité, ma mère par son ethnicité, l'environnement dans lequel je vis par son ethnicité, et de la même façon pour les religions en fait.
Alors, quelles sont les conséquences justement d'une double culture mal assimilée, mal transmise ? Qu'est-ce qu'on devient lorsque l'on a vécu tout cela ?
Alors, j'ai beaucoup de mes clients et clientes qui sont justement dans du choc culturel et ils se retrouvent à être en suradaptation. C'est-à-dire que finalement, on leur a transmis un code, une loi qui fonctionne à l'intérieur d'eux et à l'extérieur, eh bien, au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans leur vie familiale, eh bien, les codes qu'on leur transmet, c'est autre chose. C'est comme s'il y avait deux lois qui s'entrechoquaient à l'intérieur de leur vie, et soit eh bien, ils vont se dissocier, donc finalement ils vont se couper de leur ressenti, se couper de ce sentiment d'avoir sa place nulle part, soit finalement ils vont se suradapter, donc ils vont devenir ce que j'appelle les caméléons. Et les caméléons, c'est des personnes qui vont s'adapter à chaque interlocuteur. Chaque personne qui va se présenter devant eux, ils vont être en adaptation. Et le risque de ce phénomène-là d'être un caméléon, eh bien, c'est parfait pour l'environnement, c'est parfait pour le couple, c'est parfait pour les parents, c'est parfait pour le chef d'entreprise. Par contre, eh bien, l'être à l'intérieur, petit à petit, meurt à petit feu.
Alors, quand on est issu justement d'une double culture, à un moment peut survenir la quête identitaire qui peut plus ou moins être vécue bien pour certains, beaucoup plus compliquée pour d'autres. Est-ce que ça dépend de la psychologie de la personne ?
Alors, on parle beaucoup de résilience. C'est une question qui est vieille, je dirais presque comme le monde, et qui reste ouverte. Est-ce que la résilience est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis ? La résilience, c'est la capacité à aller au-delà des épreuves. C'est la capacité à surmonter les épreuves, à les transformer en une force, en tout cas en un terreau ou en du ciment pour faire des briques, pour construire autre chose derrière. Eh bien, Il y a des personnes qui ont cette capacité-là, des personnes qui vont réussir à rebondir, à se relever après 150 chutes, et à d'autres personnes qui vont s'effondrer à la première chute. Je pense que, à mon sens, il y a une partie qui est due à l'histoire de la personne,
oui.
qui est due à sa construction, à son environnement sécure ou insécure, comment il a vécu ses premières années de vie.
Alors souvent, quand la double culture est mal assimilée, qu'on a du mal à s'y retrouver, qu'on est un peu perdu, on pointe souvent du doigt les parents. Est-ce que c'est toujours la faute des parents ?
Alors, à mon sens, est-ce que c'est toujours la faute des parents ? Je dirais que non. Je dirais qu'il est important, et c'est là où je mets vraiment l'accent quand j'accompagne les personnes, quelles que soient leurs origines, c'est d'écouter la vérité de chacun. C'est-à-dire que ces parents qui leur ont transmis un ailleurs, à l'instant T, eh bien, ils étaient connectés au fait qu'ils faisaient de leur mieux et ils faisaient ce qu'il y avait de mieux pour leur enfant. Maintenant, ce mieux pour leur enfant, dans le prisme de l'enfant lui-même, eh bien, c'est peut-être le pire. Par contre, c'est important d'être conscient sur le fait que peut-être que ce parent-là, en tout cas, quand il posait tel acte-là, il le faisait avec bienveillance à partir de ce qu'il est et à partir de ce que lui-même a reçu en matière d'éducation. Donc oui, l'éducation, les premiers responsables, ce sont nos parents. Maintenant, ils font de leur mieux avec ce qu'ils sont. Et quand il y a un dérapage, il est important d'aller se poser la question « Comment a vécu ce parent-là » avant de me le transmettre à son tour.
Alors, quels sont les éléments déclencheurs ? À partir de quel moment les personnes viennent vers vous ? Quelles sont les difficultés auxquelles elles ont été confrontées ? Quel est le profil des personnes qui viennent vous voir ?
Alors, le profil, il est très, très, très varié. Ouais. Mais le point commun entre tous, c'est, tu l'as très bien nommé, la quête identitaire. La recherche de soi. C'est au bout d'un moment, il y a un... Pour les personnes qui vont être en situation de caméléon, eh bien, à un moment donné où la vie va les stopper. Je dis la vie parce que j'accompagne des personnes de toute confession et que derrière la vie, chacun met ce qui lui correspond le mieux. Et bien, arrivé à un moment donné, la vie les stoppe parce qu'ils partent trop dans tous les sens, ils sont trop en suradaptation. Et petit à petit, comme je disais, ils n'existent plus pour eux. Et au bout d'un moment, ils vont s'arrêter. Ça peut être une naissance, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être un burn-out professionnel et social, parce qu'on parle souvent du burn-out professionnel, mais il y a également un burn-out social qui va les amener à s'arrêter. Et en fait, c'est des personnes qui sont souvent dans une course folle, qui sont souvent dans ce que moi j'appelle une course poursuite, mais la seule personne qui fuit, c'est eux-mêmes, c'est leur être véritable. Et quand la vie les stoppe, eh bien, c'est là où ils commencent à se poser des questions, mais en fait... Qui suis-je réellement ?
Ouais.
C'est là où je les accompagne. Si le boulot n'existe pas, si le mari, la femme n'existe pas, si les enfants n'existent pas, qui es-tu ? S'il n'y a personne pour te regarder, tout seul, tout nu chez toi, qui es-tu ? Et là, on arrive sur des questions existentielles, on arrive sur la racine de l'être avant de se mettre au service de la casquette couple, de la casquette parent,
ouais.
etc., etc.
Alors justement, vous parlez aussi de l'acceptation de son africanité. Vous dites que ce n'est pas une étape facile. Le regard de la société sur la double culture, son propre regard biaisé par les préjugés, les complexes, c'est aussi lourd tout cela.
Exactement. Exactement. C'est là où ça devient urgent de se connaître. Parce qu'une fois qu'on se connaît, une fois qu'on se connaît et que du coup on connaît sa propre valeur, c'est beaucoup plus simple par la suite de pouvoir... se positionner, de pouvoir être en mode canard. C'est-à-dire qu'en gros, peu importe ce qui vient de l'extérieur, ça glisse sur nous parce qu'on se sait. Et du coup, la question la plus importante dans l'humanité tout entière, c'est qui suis-je ? Une fois qu'on est capable de répondre à cette question-là de façon intrinsèque, et éternelle, du coup, de soi à soi-même et de façon éternelle, eh bien, on devient comme un arbre qui a des racines solides et peu importe ce qui se passe en termes de météo, on reste solide.
Alors, quel est l'accompagnement que vous proposez aux personnes qui viennent vers vous ?
Alors, il y a plusieurs formes d'accompagnement. Principalement, je pars sur un état des lieux. C'est-à-dire que la personne qui va me contacter, on va d'abord passer par un premier état où elle va m'expliquer un peu qu'est-ce qu'elle vit actuellement. Parce qu'on ne se lève pas un jour en disant « je vais aller voir une coach parce que c'est à la mode ». Non, c'est qu'on vit quelque chose qui nous amène à, qui nous invite à nous positionner. Et ensuite, une fois que je comprends ce qu'elle vit actuellement, on va voir ensemble quel est son objectif ? Qu'est-ce qu'elle souhaite ? Dans quel domaine de vie est-ce qu'elle souhaite améliorer son style de vie ou se sentir mieux ? Et ensuite, c'est là où tout mon travail d'ethnocoach va commencer, c'est d'aller chercher. qu'est-ce qui, dans son histoire, qu'est-ce qui, dans sa construction, qu'est-ce qui, dans son parcours professionnel.
Il y a une recherche pour la religion, l'ethnie à laquelle
exactement.
La personne appartient, etc.
Exactement. Donc, du coup, on va vraiment poser, j'ai vraiment besoin de poser la carte de son existence. C'est-à-dire qu'on va poser son monde à elle, à lui, à partir de ce qu'il a vécu, à partir de son histoire, à partir de ses parents, à partir des origines de ses parents, à partir de ses parents qui sont en France, mais en quelle année, pendant que ses parents étaient en France et que lui, elle, était petite, qu'est-ce qui se passait au pays, qui a eu des répercussions sur ses parents, donc ont eu des répercussions sur lui. C'est vraiment d'aller poser tout le terreau de la personne, comment elle s'est construite, et à partir de là, je vais pouvoir lui dire, bah, écoute, là, ça glisse pas. Là, à tel rouage, eh ben, c'est, là, il y a un problème. Là, il y a un blocage. Là, tu as coupé. Maintenant, on va aller travailler sur ça, ça, ça. Et c'est là où, bah, à travers des outils, eh bien, je vais pouvoir l'amener à redresser la barre, à revisiter des chapitres de sa vie, parfois en conscience, parfois en absence, parce que certains traumas sont difficiles à revivre. Après, voilà, c'est vraiment une question d'outillage et d'outils que je vais utiliser, que je lui propose. Et ensuite, bah, il s'engage ou il ne s'engage pas, mais en tout cas, il a un état des lieux de son état physique, psychologique et psychique.
C'est-à-dire que même si on a vécu des histoires lourdes, des choses assez compliquées, on peut en guérir ?
Oui. En guérir, en tout cas, on peut transformer. Pour moi, je suis pour la guérison à travers la transformation.
Ouais.
Bien souvent, on me demande, écoute, Eva, j'ai vécu ça, 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 c'est assez traumatique. Je veux oublier. Est-ce que tu peux m'aider à oublier ? Est-ce que tu peux m'aider à effacer le chapitre ? Non. Par contre, je peux t'aider à modifier ton rapport à ce souvenir. Je peux t'aider à modifier ton rapport à ce traumatisme-là parce que bah, le rapport que tu y as aujourd'hui est douloureux. Le rapport que tu y as aujourd'hui fait que bah, dès qu'il se passe quelque chose de similaire dans ta vie, tu te mets en état post-traumatique. Donc, on peut changer le rapport qu'on a à un événement qu'on a vécu. On peut également l'effacer. Pour ma part, ce n'est pas là-dessus que je vais parce que finalement, ce n'est pas juste envers son histoire.
Vous nous racontez un peu votre parcours. Alors, je sais déjà que vous avez travaillé une quinzaine d'années dans le social, hein, donc ceci explique cela. Vous nous racontez un peu votre parcours, votre trajectoire, votre histoire, Eva Barra.
Bien sûr. Alors, professionnellement parlant, en effet, bah, je pense que depuis aussi loin que je m'en souvienne, j'étais très présente pour les autres. J'ai toujours été ce qu'on appelle une oreille. La femme, la fille, la petite fille à qui on raconte tous les secrets, la garante en fait d'un groupe. Et petit à petit, bah justement, quand il est venu le moment de choisir un métier, bah, je m'intéressais beaucoup aux enfants. Enfin, je pensais m'intéresser aux enfants.
Oui.
Et du coup, je me suis dirigée vers la petite enfance. Et puis, je me suis rendu compte que ce n'était pas tant les enfants qui m'intéressaient que ça. Mais je passais plus de temps avec les mamans dans les couloirs, parce que c'était en crèche, par exemple, avec les mamans, à leur demander, voilà, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui se passe, bah, écoutez, allez voir telle assistante sociale. Peut-être qu'un tel a la solution pour vous. J'étais déjà dans une oreille au problème. Et du coup, les gens me recherchaient pour ça parce que justement, j'avais toujours une vision à 360 degrés, j'avais plein de conseils à donner. Et petit à petit, du coup, je me disais, en fait, non, c'est pas vraiment les enfants, c'est le social. C'est l'aide, c'est vraiment la dimension d'aide. Et du coup, c'est là où j'ai embrassé une carrière.
Et l'enfance aussi, peut-être, parce qu'il y a beaucoup de clés, de pistes qu'on retrouve dans l'enfance.
Exactement. Donc finalement, c'était l'enfance qui m'intéressait. Mais du coup, j'ai été déjà consciente à 16-17 ans que pour qu'un enfant grandisse bien, il fallait que ses parents soient bien. Et du coup, pour pouvoir apporter cette sécurité-là à l'enfant qui est et qui reste aujourd'hui mon pourquoi hein, dans tout ce que je fais, eh bien, je comprends que je dois m'occuper des parents et que je dois sécuriser les parents. Je dois faire en sorte qu'ils travaillent sur ce qu'ils ont vécu, sur leurs blessures, sur leurs traumas, pour pouvoir offrir un cadre différent à leurs enfants. Donc pour sauver, entre guillemets, la génération future, à 16-17 ans, je fais le choix de, d'être travailleuse sociale, de pouvoir travailler auprès des générations futures à travers leurs parents. Donc c'est comme ça que j'embrasse un peu une carrière de travailleuse sociale où bah, jusqu'aujourd'hui, je le suis toujours parce que des structures me sollicitent en tant qu'ethno-coach, mais sur le terrain, dans des structures médico-sociales.
Et vous, en fait, c'est quoi votre rapport à votre double culture ?
Alors moi, mon rapport à ma double culture, c'est que pendant très 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 longtemps, ça a été conflictuel. Ça a été conflictuel dans le sens où bah, je suis née au Mali et j'ai grandi en France. Donc mes parents étant tous les deux, tous les trois, parce que du coup, je suis grandie sur un pilier parental, mon père étant polygame, eh bien, m'ont transmis toute leur culture malienne ici en France. Et tout, justement, avec tout le poids qu'il y a derrière les traditions, derrière les impératifs, n'est-ce pas, culturaux. Et finalement, il y avait ce déchirement interne où finalement, à la maison, on me disait, mais en fait, pourquoi tu te fatigues ? En fait, tout ce qu'on attend de toi, c'est que tu puisses tenir une maison. Tu sais le faire. T'as validé le truc, pourquoi est-ce que tu nous fatigues à 22h, à avoir ta lumière encore allumée, va dormir. Et à l'extérieur, j'avais ce discours-là à l'école. On me disait qu'en étant homme ou femme, je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Je pouvais être absolument tout ce que je voulais. Et c'était complètement contradictoire avec ce qu'on me disait, en fait.
Vous viviez, en fait, dans deux mondes.
Exactement. Donc, j'avais deux mondes, j'avais deux lois. Dans une seule personne et qui devait s'adapter à une seule personne. Donc d'un côté, je devais dire quel rêve j'avais, à quoi est-ce que j'aspirais. De l'autre côté, je devais juste savoir tenir une maison parce que un jour, un homme prendrait en charge le reste. Et j'ai appris à tenir une maison et j'ai également appris à rêver et à rêver très très grand. Donc quelque part, au départ, c'était contradictoire. Et au final, en devenant plus âgé, en me positionnant, parce que finalement, au bout d'un moment, il a fallu se positionner au niveau de la famille, et j'ai coupé. J'ai coupé parce que finalement, c'était violent pour moi de devoir leur faire comprendre que j'avais fait des choix qui ne leur correspondaient pas. Il était beaucoup plus simple de couper pour me reconstruire, pour ensuite reconnecter ou non.
Pour renaître.
Exactement, renaître pour soi.
À partir de quel moment vous êtes rendu compte que ça pouvait être une discipline et en tout cas qu'il y avait de la demande en fait dans l'ethno-coaching ?
Alors, en tant que travailleuse sociale, j'ai eu les deux bouts. C'est-à-dire que j'ai eu cette période où on te demande indirectement de t'adapter, voire de t'intégrer autant que possible. Et puis, j'ai eu cette autre phase où finalement, mon ethnicité devenait un avantage. Finalement, ils se retrouvaient avec des publics avec lesquels ils n'arrivaient pas à communiquer. « Ah tiens, Eva va pouvoir nous aider. Ah tiens, Eva, est-ce que tu peux passer ? On a telle maman qui ne parle pas très bien français. Est-ce que tu peux nous aider ? Ah tiens, on a tel papa, on est en conflit avec l'institution, c'est juste pas possible. Est-ce que tu peux intervenir ? » Eh bien, en tant qu'éducatrice, j'avais déjà ce regard-là où j'arrivais à dire à mes collègues, mais en fait, c'est pas que ce papa-là, il veut pas te parler. C'est qu'en fait, quand tu le vois arriver, exactement, il arrive avec sa djellaba et toi, en face, t'as un décolleté. Il peut même pas te regarder, comment est-ce qu'il peut communiquer avec toi. Donc, ok, ce que je te propose, tu redescends, tu retournes faire le rendez-vous, juste prends mon châle, mets-le sur toi. Et finalement, le discours se faisait. L'échange pouvait se créer, mais c'était déjà des éléments que je n'avais pas apprises. C'est des éléments que je connaissais, que je savais, et du coup, je prenais le temps d'écouter l'autre dans ce qu'il était. Il y a des papas, il y a un papa en particulier que j'ai en tête, qui a été convoqué, son enfant a été placé dans une structure où je travaillais, parce qu'il a été convoqué à l'école et que son fils faisait n'importe quoi. Donc, il l'a tapé dans le bureau du directeur. Et le directeur a fait son devoir, il a fait un signalement. Donc l'enfant s'est retrouvé placé, il y a eu d'autres éléments, mais le papa arrive dans le bureau en pleurs en disant « mais en fait, je ne comprends pas, j'éduque mon enfant, vous me le retirez ». Et bien ce papa, il avait besoin qu'on comprenne, que j'entende d'où vous venez et comment vous avez été éduqué, c'est la norme. Et que finalement, quand vous tapez votre enfant, c'est parce que vous voulez le meilleur pour lui. Maintenant, comprenez à votre tour que vous avez fait le choix de vous installer dans un pays où ce même acte a une autre signification. Mais le fait que j'ai pris le temps de l'écouter dans sa culture, le fait que j'ai pris le temps de valider que j'entends et je comprends comment vous avez vécu les choses, je peux lui demander ensuite de me comprendre aussi. Et là, on arrive sur un terrain d'entente. Et ça, encore une fois, personne ne me l'a appris. C'était dans ma façon d'être, dans ma façon de faire. Et du coup, c'est le cheminement de la vie qui a fait qu'à un moment donné, je me suis séparée du père de mes enfants et je me suis retrouvée à devoir gérer mes enfants tout seul.
Justement, c'est la question qui suit. Alors, comment vous leur transmettez cette double culture à vos enfants, Eva ?
Du coup, c'est à ce moment-là où finalement, je me suis rendu compte que ce que j'étais pouvait être un atout à porter différemment qu'en tant qu'éducatrice. Donc finalement, j'ai repensé qui j'étais, l'activité, tout ce qui me plaisait, et j'ai créé l'ethno-coaching. Et cet ethno-coaching-là, ça va au-delà d'un métier, ça va au-delà d'une activité, c'est ce que je suis. Je suis la fusion de la fusion de mes deux cultures, je suis celle qui a choisi de ne pas choisir. Je choisis d'être à la fois, d'être aussi bien africaine que européenne. Je choisis d'aimer cette double culture. Et finalement, en l'incarnant au quotidien, c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de la transmettre à mes enfants.
En tout cas, ça vous va très bien.
N'est-ce pas ? C'est vrai, comme je dis, comme ça va avec cette tenue que je porte aujourd'hui, qui n'est ni occidentale ni africaine, qui est une fusion des deux, qui relève justement ces koris, qui sont les coquillages africains et qui sont juste le symbole de la richesse africaine, sur une robe sweat occidentale qui est une mode très occidentale. tout comme une calebasse qui est fait, enfin un logo qui est un symbole marketing sur une calebasse africaine. Donc c'est, oui, en effet, c'est une activité, oui, c'est de l'ethno-coaching, mais plus que tout, c'est un art de vie, c'est vraiment une philosophie de vie, un équilibre que j'ai trouvé, qu'aujourd'hui, j'invite tout un chacun à se penser comme fusion de plusieurs cultures, plutôt que justement moitié si. Non, on est entier, nous sommes nés entiers, maintenant incarnons cette entièreté en paix. Interne et externe.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes une femme épanouie, Eva Barra. En tout cas, c'est ce qui transparaît.
Merci beaucoup. Oui, je pense qu'aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre. J'ai créé mon équilibre aussi bien pour moi que pour mes enfants. On arrive à avoir un équilibre de vie. On arrive à avoir un mode de vie qui nous correspond, qui correspond à nos importants. C'est aussi pour ça que je vis en Normandie, parce que la nature est importante pour moi. Donc, je pars vraiment de qui je suis, de ce qui compte pour moi. Et ensuite, je construis ma vie autour de ça. Et c'est vraiment là où j'accompagne mes clients et mes clientes, c'est à se trouver, à trouver qui ils sont et à rayonner dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur mode de vie, cette fusion culturelle-là.
Alors, c'est cool, c'est Soko, on est toujours surpris avec ce profil très intéressant que tu nous proposes tous les lundis. Alors, pourquoi avoir décidé de nous proposer Eva Barra aujourd'hui?
Tout d'abord, merci Aïssa encore de m'avoir accueilli. Pourquoi Eva Barra? Parce que Eva Barra, c'est un peu comme si, c'est un peu une grande sœur. Elle donne beaucoup de conseils et parfois quand elle me parle, en fait, il y a des puzzles qui se mettent en place dans mon cerveau et en fait, je trouve ce qui me manque simplement. Donc, pourquoi Eva Barra? Parce que c'est quelqu'un d'entier, c'est un entrepreneur également et elle fait très bien son travail, tout simplement. Tout simplement, c'est quelqu'un de super.
C'est quelqu'un de super. Alors, les entrepreneurs de la semaine dernière de Au Mango.
Oui. La semaine dernière, nous avons accueilli Au Mango à Africa Radio. Et ils font un jeu tout simplement pour dans leur restaurant, une invitation à la première personne qui appelle la radio tout simplement et dira Au Mango. Voilà, tout simplement.
Appelez-nous au standard d'Africa Radio si vous voulez repartir avec l'invitation pour aller découvrir le concept Au Mango, c'est à Champigny hein, dans le 94.
Je n'ai
pas oublié un restaurant afro-caribéen et c'est vrai qu'ils nous ont donné l'eau à la bouche lorsqu'ils nous ont parlé un peu de leur concept. Donc n'hésitez pas pour repartir avec la place. Alors Eva Barra, comment on fait pour en savoir un petit peu plus? Comment on fait si on veut être accompagné? Dites-nous tout.
Alors du coup, pour tout ce qui est accompagnement ou ne serait-ce que découverte, hein, parce que comme on l'a dit, souvent c'est un concept qui a été créé, donc j'entends et je peux comprendre qu'il y ait personne d'abord besoin de découvrir, de savoir ce qu'il y a derrière.
Ouais.
Alors du coup, vous pouvez me retrouver, je suis très présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, Eva Barra Coach. Et du coup, à partir de là, il y a des personnes qui peuvent également m'adresser des mails, des demandes de renseignements. Et je prends vraiment le temps de leur faire un retour, de voir un petit peu quel est l'état de leur situation, qu'est-ce qu'ils souhaitent transformer, comment, à travers l'ethno-coaching, je peux les aider à trouver qui ils sont pour rééquilibrer leur vie.
S'il y avait juste un seul conseil, un à donner aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait?
Pour les parents, alors, pour moi, les parents, il y a plusieurs générations. Et du coup, je dirais d'être conscient que ce qu'on est aujourd'hui est la résultante de plusieurs générations. Dans la mesure du possible, on peut remonter jusqu'à cette génération avant soi. Et moi, j'invite tout un chacun à être conscient que chaque génération a fait de son mieux avec ce qu'il était. Et de connecter à ça, au fait que chacun a fait de son mieux avec ce qu'il est et que maintenant, quelque part, eh bien, la génération d'avant était peut-être focalisée sur les besoins primaires, à savoir manger, dormir, être en sécurité, avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir une assiette pleine.
Subvenir aux besoins du pays
également. Aujourd'hui, la génération que nous sommes, eh bien, nous avons une autre mission. C'est-à-dire qu'une fois que c'est pas cette génération à sécuriser ces besoins-là, aujourd'hui, on peut se poser des questions. Est-ce que je suis heureux? Mais tant que ça, c'est pas sécurisé, on peut pas y aller. Donc, reconnaissons à la génération précédente d'avoir créé un élément de sécurité qui nous permet aujourd'hui de nous poser des questions. Est-ce que je suis heureux? Est-ce que quand j'étais enfant, j'étais une enfant épanouie? C'est des questions qu'on peut se poser parce qu'on est vivant, parce qu'on est en sécurité, parce qu'on est nourri. Maintenant, en tant que cette génération-là, eh bien, comment est-ce qu'on peut honorer cette génération passée? Eh bien, justement, en allant répondre à ces questions-là, en étant heureux, parce que peu importe les actes qu'ils aient pu poser, même si elles ont été maltraitantes, malveillantes ou du coup absentes, le fait d'être absent, quelque part, ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on soit heureux. C'est ce que j'aime à croire. Maintenant, eh bien, comment est-ce qu'on peut être heureux? On peut être heureux en allant se poser les vraies questions, en allant faire le tri dans cette double culture, entre cet ailleurs et cet ici, et en créant leur équilibre. Donc moi, le conseil que je peux donner aux parents, c'est de génération en génération, on se lègue des bagages. On se lègue des bagages de bons souvenirs, des bagages de mauvais souvenirs. Eh bien, le conseil que je peux donner à la génération d'aujourd'hui, aux parents d'aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, mettez de l'ordre dans votre valise avant de la léguer.
Pas mal.
Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous découvrir votre histoire et également ce concept de l'ethno-coaching. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'Eva Barra pour en savoir un petit peu plus. Elle est partout sur les réseaux, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, partout. Donc, vous la retrouverez, Eva Barra. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur l'antenne d'Africa Radio. Merci aussi, Sekou, d'être venue. On se retrouve lundi prochain avec un autre entrepreneur. À très bientôt.
À très bientôt. Merci. Ciao, ciao. Thank you.